1, 2, droit soleil est un balado du Bureau international des droits des enfants qui informe, explique et questionne la situation des enfants et de leurs droits à travers le monde.
Pablo a 9 ans. Face à une énième intimidation de la part des gangs, sa famille décide de quitter le Salvador, laissant derrière leur maison, leurs amis, leur vie. Avec son père et sa mère, Pablo parcourt des milliers de kilomètres, traversant le Mexique, les États-Unis, avec l'espoir d'une vie plus sûre. C'est un périple épuisant, dangereux. Mais ils en sont convaincus, cela en vaut la peine. Après plusieurs semaines, la famille arrive enfin au Québec, par ce fameux passage non officiel du chemin de Roxham. La neige craque sous leurs pieds. Pablo regarde autour de lui, tremblant de froid. Devant eux, les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada, en uniforme. Les parents de Pablo sont immédiatement appréhendés et arrêtés. Les agents prennent leurs documents. Pablo ne comprend pas ce qui se passe. Il pensait que la partie difficile du voyage prenait fin. Les pièces d'identité de son père sont mises en doute. Toute la famille est conduite dans un centre de surveillance de l'immigration pour des vérifications plus approfondies. Pablo n'est pas officiellement détenu, mais pour le maintenir avec ses parents, il est également enfermé. Là-bas, ni école, ni espace pour jouer. Personne ne lui explique ce qui se passe. Ses parents tentent de le rassurer et de lui dire que ça va aller. Chaque nuit, Pablo fait des cauchemars, se réveille avec la peur qu'on le sépare de ses parents ou qu'on le renvoie au Salvador et qu'il leur arrive quelque chose. Pablo n'existe pas, mais sa réalité, oui. Car cette histoire, c'est malheureusement celle de nombreux mineurs qui arrivent au Québec avec leurs parents. Je suis Sandrine Lerenard, conseillère en protection pour le Bureau international des droits de l'enfant, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Jennifer Lopez, qui termine une thèse sur l'accès à la justice des enfants demandeurs d'asile au Canada et est professeure à l'Université d'Ottawa à l'École des études sociologiques et anthropologiques. Dans l'épisode 2, nos intervenants nous présentaient les différentes situations de privation de liberté des enfants au Québec. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des enfants en mobilité et plus spécifiquement des enfants qui arrivent au Canada avec leurs parents. Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Sandrine, avec plaisir.
Alors finalement, ces enfants, comme Pablo, dans notre petite histoire, ils vont rester avec leurs parents, ce qui en soi peut être vu comme quelque chose de bénéfique, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout de même quelles conséquences cette forme de détention va avoir sur les enfants ?
Oui, il y en a plusieurs. Alors absolument, les recherches vont le montrer d'ailleurs. Des études menées par des chercheurs de McGill vont révéler que les effets sont dévastateurs. La détention chez l'enfant va entraîner des troubles de stress post-traumatique, de l'anxiété par exemple, et même de la dépression chez les mineurs. Imaginez un enfant de 9 ans, enfermé, entouré de gardiens, comment est-ce qu'il pourrait se développer normalement ? Les effets de la détention vont aller même au-delà de la libération. Le stress qui va être généré dans cet environnement de détention, combiné à l'incertitude de leur statut, va affecter la capacité de l'enfant non seulement à se concentrer, mais aussi à dormir, ou tout simplement à être un enfant.
Donc de ce que tu viens de nous mentionner, enfermer un enfant, finalement, ce n'est jamais anodin et c'est clairement pas un facteur qui va lui permettre de se développer pleinement. Mais alors, est-ce qu'au Canada, on a vraiment droit légalement d'enfermer ses enfants et si oui, pour quelles raisons ?
Alors oui, au Canada, il est techniquement légal de détenir des enfants, mais ça va aller paradoxalement à l'encontre de la Convention des droits de l'enfant qui protège donc l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors pourquoi est-ce qu'on persiste à détenir les enfants ? Ça, c'est la question, malgré cette violation. Souvent, les raisons qui vont être invoquées n'ont rien à voir avec le bien-être de l'enfant. Et puis, les autorités vont avancer 4 motifs principaux pour justement déplacer les enfants dans les centres de surveillance de l'immigration. La première chose, donc, c'est l'identification. Justement, ici, dans le cas de Pablo, les parents de Pablo ont des documents qui vont être remis en doute et dont on n'est pas sûr. Donc, juste le temps de vérifier, on va les déplacer dans ce centre de surveillance. Le deuxième motif, c'est la préoccupation en termes de sécurité. Donc, les parents sont souvent considérés comme une menace. Mais est-ce que c'est pour autant une raison pour détenir un enfant ? Alors, le troisième motif que l'on invoque, c'est souvent le risque de traite aussi face à l'enfant. Donc, les autorités veulent s'assurer que les enfants ne sont pas accompagnés de manière frauduleuse, si on peut dire. Mais autant, est-ce qu'on peut justifier le traumatisme qu'un enfant va subir dans le fait d'être détenu juste parce que, justement, on veut le protéger ? Et puis, le quatrième motif, en fait, c'est l'entrée irrégulière. La manière dont Pablo et sa famille ont traversé un point d'entrée qui est non officiel. Ces familles vont être automatiquement suspectées.
Alors, tu as mentionné l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par le Canada en 1991. En quelques mots, ce principe, il nous dit que quelle que soit la situation, on doit faire ce qui est le mieux pour l'enfant, ce qui va privilégier son bien-être à long terme et lui permettre de développer son plein potentiel. Alors, comment est-ce que ça va s'appliquer dans ce contexte ?
Donc, ces enfants, comme Pablo, déjà traumatisés par la violence dans leur pays d'origine, se retrouvent de nouveau victimes d'un système qui devait les protéger. Ces conditions, donc, ne vont pas respecter les normes internationales, comme tu l'as mentionné justement dans la Convention relative aux droits de l'enfant, et qui stipule que la détention d'un enfant ne doit être utilisée qu'en dernier recours, mais également pour des périodes les plus courtes possibles, donc selon justement l'intérêt supérieur de l'enfant.
Merci Jennifer. On peut dire que la question de la mobilité des personnes à travers les frontières, qu'on résume souvent par le terme migration, est un enjeu réel dans beaucoup de pays et peut d'ailleurs provoquer un certain nombre de frustrations et de peurs. Il y a beaucoup de pays qui, malheureusement, ne font pas bien les choses, qui ne sont pas du tout exemplaires sur la question. On pourrait citer les États-Unis, un certain nombre de pays occidentaux qui se ferment face à ces afflux de personnes. Contrairement, d'ailleurs, aux pays africains qui ont tendance à avoir une approche des frontières bien différente. Cela étant, la posture du Québec reste tout de même particulièrement conservatrice, même au sein du Canada.
Oui, en effet, le Québec va adopter une approche plus coercitive dans la gestion des migrants, y compris donc des mineurs, en privilégiant la détention dans des centres de surveillance ou bien dans des prisons provinciales. Par contraste, l'Ontario a mis en place des alternatives à la détention, comme des programmes de supervision communautaire et des hébergements encadrés. Toutefois, les études suggèrent que ces alternatives elles vont représenter toujours, pas toujours, des solutions qui vont respecter les droits humains. Et critiquent donc le fait qu'elles vont produire une espèce de carcéralité conditionnelle. Donc, il reste une forme de contrôle étatique sous des apparences qui sont plus permissives. Il y a donc un paradoxe dans de l'élargissement en fait, des mesures de surveillance tout en prétendant réduire donc, le recours à la détention. Ça va renforcer le contrôle de la population migrante sans véritablement atténuer l'impact sur les droits des enfants et de la famille.
Alors heureusement, tout n'est pas sans espoir, tout n'est pas perdu et on voit actuellement des alternatives se profiler. Est-ce que tu pourrais nous en mentionner certaines qui fonctionnent ?
Oui, il y en a deux en particulier. Mais donc face à ces défis posés par la détention des migrants, le Canada, depuis 2018 et en particulier Québec, a mis en place donc un programme de solutions de rechange à la détention. C'est un programme qui va viser à limiter le recours donc à la détention des mineurs et va privilégier des alternatives plutôt communautaires et plus respectueuses des droits des enfants. Donc, la première approche, c'est l'hébergement communautaire, comme je viens de le mentionner, avec des organismes au Québec, notamment comme le PRIDA et le YMCA, qui vont proposer de placer dans des logements supervisés, avec des accès aux soins de santé, à l'éducation, des programmes d'accompagnement également, dont l'objectif est simple, c'est de maintenir les familles dans un environnement le plus normal possible, dans le fond, tout en assurant donc le suivi administratif. Il va exister aussi une autre solution de rechange, comme on dit. Donc, ce sont des initiatives de parrainage qui sont des parrainages privés qui vont permettre à des groupes communautaires ou bien des organismes souvent religieux de soutenir les réfugiés et les migrants qui n'ont pas de statut, par exemple, et qui vont leur offrir un logement supervisé, un soutien aussi financier et des services éducatifs d'intégration sociale qui va être souvent sur une période, qui va s'étaler sur une période d'un an. Donc, c'est un environnement où les enfants vont pouvoir aller à l'école finalement, pouvoir jouer et où les familles vont pouvoir respirer un peu. Et bien que le Canada puisse certainement progresser en développant donc ces alternatives plus variées et accessibles, il est important de souligner qu'il y a vraiment des résultats positifs ces dernières années. En effet, donc entre mars 2023 et mars 2024, le nombre de mineurs hébergés a largement diminué. Donc, il y a une réduction de 87%. On n'a plus que 13 mineurs qui ont été détenus dans cette période par rapport à ce qui était fait en 2018-2019. Donc, il y a vraiment un progrès de ce côté-là. Et pour autant, ces programmes, c'est certain qu'ils nécessitent de plus de ressources, des partenariats un peu plus solides et surtout une espèce de volonté vraiment politique de changer des pratiques au niveau du contrôle migratoire.
87%, en effet, c'est énorme, c'est très positif, il faut saluer ce type de progrès. Mais ce qu'on ne voit pas vraiment progresser, en revanche, c'est tout le discours qui entoure ces questions migratoires ou de mobilité, notamment par rapport à la migration et qui peuvent être, comme tu viens de le mentionner, liées à des questions politiques.
Quand on parle de détention, le vocabulaire qui est employé n'est jamais anodin. les mots qui sont choisis par les autorités vont avoir un impact majeur, notamment sur la perception du public. Plutôt que de parler de détention, les rapports administratifs, mais aussi les communications des autorités, vont parler plutôt d'hébergement ou d'accueil. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien, c'était une stratégie de ce qu'on appelle une stratégie de minimisation, tout simplement en utilisant des termes qui sont plus adoucis, qui vont atténuer la gravité des faits. D'un point de vue sémiotique, on pourrait dire que le mot détention va évoquer une privation de liberté, un contrôle, mais aussi l'enfermement. Mais l'hébergement, dans le fond, on va voir que ça suggère un espace plus neutre, presque bienveillant, et qui va masquer la réalité de l'expérience vécue par l'enfant. Alors imaginez la différence entre dire « cet enfant est détenu » et puis « cet enfant est hébergé dans un centre de surveillance ». Donc la charge émotionnelle change complètement, n'est-ce pas ? Donc les conséquences vont rester les mêmes par contre. Un enfant hébergé, il va vivre au sein d'un centre de surveillance, mais dans un environnement donc, qui est fermé, avec des horaires stricts, avec des portes verrouillées. Donc c'est certain que ça va toujours avoir des impacts négatifs sur le développement de l'enfant.
Et on le sait, l'histoire nous l'a prouvé malheureusement plusieurs fois, la manière de formuler les choses, les mots qu'on emploie peuvent avoir des conséquences dévastatrices dans certains cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tous une responsabilité en tant que citoyens pour déconstruire ce discours autour des questions de mobilité, ces fantasmes parfois qui peuvent exister autour de la migration. Et ça nous incombe à tous de rappeler qu'un enfant, quelle que soit sa situation, est d'abord un enfant et doit être traité comme tel. Merci Jennifer d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Sandrine.
Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Et pour nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à compléter notre sondage disponible sur les réseaux sociaux et dans la barre de description sur Spotify. Ne manquez pas notre prochain épisode qui sera consacré au cas des enfants placés en centre de jeunesse.